Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Cyclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction.
Eh bien, bonsoir et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis 20 ans. Je suis Sylvain et ce soir, je suis accompagné par Aude pour ce nouvel épisode de Star Wars Recap, des épisodes 6, 7, 8, 9 et 10 de la série spin-off à The Clone Wars, The Bad Batch. Bonsoir Aude, ça va ?
Bonsoir Sylvain, ça va et toi ?
J'ai connu mieux, hein. C'est si j'annonce directement à nos auditeurs que si vous espériez entendre Sushi, eh bien Sushi n'est plus, donc on l'entendra plus. C'est pour ça que cet épisode a du retard. Voilà, moi je lui fais un gros bisou. Vous aussi, vous avez intérêt. Et puis voilà.
Paix à son âme de chat, et on peut avoir éventuellement Pimousse qui prend le relais, qui est mon vieux chat à moi également, qui gueule bien fort comme le faisait Sushi. Donc écoute, si jamais Pimousse nous le fait aujourd'hui, c'est un signe qu'il nous envoie.
C'est un petit Pimousse ou un gros Pimousse ?
C'est une petite Pimousse, c'est une vieille Pimousse, elle est très belle mais elle est très conne. Et elle gueule fort aussi, elle est bien casse-pieds.
Bien, un petit WhatsApp Star Wars toi ou pas ? Quelque chose de plus dans l'activité.
Oui, j'ai enfin fini La Lumière des Jedi. Après 2 mois ou 3 mois difficiles, j'arrivais pas à le lire.
Ça
honnêtement,
pique.
Hein, je vous l'avais déjà dit, j'ai pas accroché, ça m'a fait chier de bout en bout, mais ça y est, je l'ai fini. Et j'ai bien entamé, presque fini le comic sur Kanan, qui lui me plaît beaucoup. Et j'ai entamé le roman Battlefront 2 sur l'escouade Inferno. Donc ça, c'est plus facile parce que je connais déjà les personnages. Donc c'est plus facile à se mettre dedans et à avoir de l'intérêt pour eux.
D'accord.
Et toi ?
Eh ben moi, de mon côté, je continue les Black Series. J'ai reçu celle-là aujourd'hui. Donc c'est, comment il s'appelle déjà ? Carnor Jax, l'un des Red Guard qui vient de l'univers étendu. Et là, je ne sais pas, je suis bien emmerdé parce que le boîtier est sympa. J'ai pas forcément envie de l'ouvrir, mais j'ai envie de faire mes muses avec la figurine. Donc je suis bien kikiné, hein, si vous voyez déjà où je veux en venir. Et puis, un autre Arc Trooper, un autre Black Series, c'est Echo.
Ah.
Hop, qui a dit bonjour.
Bonjour.
C'est Echo avant la transformation en T-800.
Avant sa chirurgie esthétique, un petit peu.
C'est ça. Et je suis rassuré, parce que j'avais une petite peur, parce que c'est une Black Series, mais c'est l'une des collections qu'ils ont sorties là pour fêter les 50 ans de Lucasfilm, qui est écrit là. Et j'avais un peu peur parce que ça reprend les anciens boîtiers des figurines Hasbro 3.6. Donc je pensais qu'on allait avoir un visage très cartoonesque, en fait pas du tout, c'est un visage très réaliste. Donc il ira très bien avec Rex à côté pour l'assemblage. Et puis moi je suis bien embêté parce que ma Hot Toys de Rex, justement, elle est décalée. Elle devait arriver au mois de juin, juillet, et elle est décalée au mois de septembre.
Ah, oh, tu m'envoies en avril.
Ça, c'est chiant.
Quand tu parlais des visages, là, c'est une Black Series récemment qui est sortie de Qui-Gon, non ? J'ai pas mal de copains, copines dans la communauté qui s'en sont commandées une.
Elle est quelque part sur l'armoire. Là.
Au niveau des visages, c'est vrai qu'elle était bien. On a vu pire, quoi. On a vu des trucs absolument...
Depuis quelques années, ils ont amélioré les visages. Et ils sont passés à une autre technique qui scanne vraiment les acteurs et les actrices pour refaire leur visage. Et ça, c'est cool. On a fini nos WhatsApp. Donc, on va bientôt rentrer dans le vif du sujet, hein. Donc on vous rappelle, c'est un épisode récapitulatif des épisodes 6 à 10 de la série The Bad Batch. Et pour ceux qui dorment, la série The Bad Batch est une série spin-off de The Clone Wars et nous y suivons la Clone Force 99, qui sont tout simplement des clones génétiquement modifiés. Qui ont déserté suite à l'ordre 66 et à la chute de la République. Donc nous allons récapituler et plutôt donner notre avis sur ces 5 épisodes, dont le premier, l'épisode 6, s'appelle « Hors service, décommissionnaide » chez nos amis québécois. L'épisode 7, « Les traces du passé » qui s'appelle Battle Scars, l'épisode 8, Retrouvailles, Réunion, qui va à la chasse, Bounty Lost, et là, on l'aurait appelé, qui va à la chasse, perd sa place, mais non, il s'appelle Terrain d'entente, Command Ground. Donc, on
un
va
accent
commencer...
magnifique, Sylvain, laisse-moi
c'est ça, fous-toi de ma gueule, toi.
Non, pas du tout.
Bien, et eh ben on va attaquer ma partie préférée, les récaps à la con, et un gros bisou à celui à qui avait sur YouTube a dit que c'était une horreur de m'écouter fermer récap. Et eh ben j'espère que ce sera encore pire ce coup-ci.
C'était pas dit comme ça. Non. C'était mi sarcastique, mi affectif. Moi je me souviens.
Oui, bien sûr. Bien, donc on va attaquer par l'épisode 6, Hors service. C'est un épisode assez rapide, tout se passe sur Corellia, où la Force 99 est envoyée par Sid dans un complexe de désaffectation, en gros c'est une usine de recyclage de droïdes, pour récupérer les infos qu'il y a dans un droïde tactique. C'est ce avec le crâne assez plat qui ressemble à dont la tête ressemble à des paires de binoculars. Donc la Force 99 va là-bas, chope le droïde. Sauf qu'au moment où ils vont piquer le droïde, eh bien on a deux intervenantes qu'on hélas on retrouve ici. Qui viennent casser les rognons à tout le monde parce qu'elles sont aussi à la recherche des données de ce droïde. Ce sont les sœurs Martez, Trace et Rafa. Oui, les deux chieuses qu'on avait dans la dernière saison de The Clone Wars, avec dans l'arc Coruscant avec Ahsoka. Donc là, c'est bon, elles sont passées. On a compris, hein, elles sont gentilles, elles bossent aussi pour la résistance. Pour un groupe de la résistance. Donc tout le monde essaye de se piquer le droïde, hein, alors que nous on a des clés USB, on peut faire des copier-coller, ça pose aucun problème. Et c'est exactement ce qui se passe dans cet épisode-là, après s'être joyeusement envoyé des fions et des tirs de blaster dans tous les coins. C'est Tech. Qui fait une copie des données du droïde. Il en garde une copie, il en donne une autre aux sœurs. Pendant ce temps-là, Vrek, qui s'est cogné très très fort la tête contre le mur, a très très mal à la tête et on comprend que la puce qu'il a dans le cerveau, elle ne demande rien d'autre que s'activer. Mais tout finit bien, tout le monde rentre tranquillement, chacun chez soi. Tress et Rafa informent leur contact qui porte un joli poncho et voilà. J'ai oublié ça, les petites images de ce magnifique épisode, hein. ça bastonne et là ça fait la paix, ça s'engueule et puis là UKD. Alors l'épisode 7 maintenant. Battlestar Galactica, Battlescar, les traces du passé. Et bien là, alors qu'on voyait tous en contact pour les sœurs Martinez, là,
Martinez.
Un type comme Organa.
Ouais, Organa, ben, non, ouais.
Pas du tout, en fait. Et ben, les plis de tissu qu'on a, et ben, c'est ceux du poncho de Rex, hein, et vous voyez que ses cheveux ont toujours pas repoussé. Et donc, il arrive à retrouver les clones dans le bar de Sid. Et puis, ils font copain-copain, ils partagent un café, des croissants. Et là, patatras, Rex apprend qu'en fait, tous ces clones-là ont encore leur puce inhibitrice. Et ben, Rex, il n'est pas super content parce qu'il a assisté au bazar que c'est. Et donc, il leur propose d'aller visiter la jolie planète de Braca, qui est un cimetière des vaisseaux Venator et Acclamator utilisés pendant la guerre des clones, et accessoirement la planète de départ du jeu Fallen Order. Et pourquoi qu'ils vont là-dedans? Eh bien, tout simplement pour aller trouver l'épave d'un Venator et trouver l'infirmerie. Une infirmerie encore en état de marche, et de joyeusement aller tous se faire opérer pour retirer la puce avant qu'il y ait du dégât. Le petit problème, c'est que après avoir fait copain-copain avec certaines des bestioles du coin, eh bien, comment il s'appelle déjà ce gros bourrin?
Breaker,
eh ben, il stresse parce qu'il aime pas les piqûres ni les opérations à cerveau ouvert. Il stresse, qui active la puce. T'imagines le niveau de sécurité du bordel s'il suffit que le clone stresse pour qu'elle s'active. Et en s'activant, eh ben, il ne pense qu'à dégommer les clones, et surtout, encore une fois, Omega, qui était là où il fallait pas, quand il fallait pas. Donc tout le monde essaye de neutraliser Wrecker, et Wrecker essaye de tuer tout le monde. Bien entendu, c'est à deux doigts de réussir, mais Rex met un coup de taser paralysant à Wrecker, qui finit par faire un gros dodo, qui passe dans la charcuteuse et se fait retirer tranquillement la puce. Puis tous les autres clones y passent, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit gros bourrin. Donc tout est bien qui finit bien, chacun rentre chez soi, mais patatras, les clones sont captés par la guilde des ferrailleurs qui balance à l'Empire. Et on embraye juste à ce moment-là par l'épisode 8, Retrouvailles ou Réunion, où la guilde des ferrailleurs ayant bien balancé, l'Empire envoie Crosshair et tout plein de clones qui, eux, ont encore leur puce, s'occuper des déserteurs et de flinguer tout le monde. En même temps, on a Lamassu qui demande à... comment elle s'appelle? À Nalassi d'envoyer des chasseurs de primes récupérer Omega. Et surtout de récupérer le matériel génétique et se débarrasser de la fillette par la même occasion. La Bad Batch tente de se faufiler à l'extérieur sans trop dégommer de clones, mais plutôt en passant par les bouches d'aération comme le ferait un certain John McClane. Sauf que ça se passe pas ça se passe pas super bien. Ils doivent un peu tâter du poing et du blaster paralysant. Et surtout, il y a un gros pataquès, c'est que après son arrivée, Crosshair, apprenant que les clones sont planqués quelque part dans les tuyères des réacteurs, demande tout simplement à ce qu'on allume le barbecue et qu'on aille chercher les saucisses. Ah oui, tu mets des bonhommes humains dans un réacteur d'avion et t'allumes, c'est pas la peine d'appeler les urgences, hein, faut sortir les merguez et puis c'est tout. Sauf que, coup de bol, la Clone Force 99 a tout plein d'explosifs avec eux et s'en servent pour faire péter la tuyère extérieure du réacteur pile au moment où il s'allume, ce qui fait que eux tombent. Et la tuyère va gentiment, va gentiment roussir les sourcils de Crosshair. Alors qu'ils sont à peu près libérés, le groupe de clones est séparé en deux. Hunter et Omega d'un côté, les trois autres loustiques de l'autre. Tout le monde se donne rendez-vous au vaisseau, sauf que patatras. Quand Hunter et Omega arrivent au vaisseau, ils sont accueillis par Topo et notre Clint Eastwood intergalactique.
Eh oui.
Cad Bane, qui encore une fois met une dérouillée à notre Rambo de service et se barre tranquillement avec Omega sous le bras. Eh bien, comme avant, l'épisode 9 embraye directement dans la seconde après cet épisode 8. Et alors là, c'est une poursuite à trois. Hein. La Bad Batch tente de poursuivre Cad Bane, tout en étant poursuivi par Crosshair qui est en train d'essayer de se faire bander de tous les côtés. Et non, c'est pas un truc dégueulasse.
Pas encore.
Ouais, pas encore. Mais ils sont donc dans sa propre navette pour traquer ses anciens partenaires, pendant que Bane informe tout simplement Lamassu qu'il a la petite et qu'il est temps de le payer. Lamassu lui donne rendez-vous sur une ancienne installation des Kaminoriens à Boravio, hein, pour procéder à l'échange entre le pognon et la fillette. De son côté, Lamassu envoie Tonui pour faire l'échange avec en bonus et bien l'ordre de neutraliser la fillette une fois qu'on aura le matériel génétique, parce que bon, c'est une bouche à nourrir, alors que sur un échantillon de sang ou d'ADN, ça fait déjà des calogues en moins à payer. Omega, elle, fait mumuse avec le droïde Topo pour essayer de se barrer de là, et quand elle arrive enfin à se faire ouvrir la cellule, Bane atterrit et elle prend la poudre d'escampette pendant environ 3,50 m avant d'être rattrapée non pas par Bane mais tout simplement par Fennec Sand, qui elle a été envoyée par un autre Kaminoïen pour récupérer la fillette. Donc si même les Kaminoïens se mettent à se tirer dans les pattes, on n'est pas arrivé. S'ensuit un joli combat entre Fennec et Bane pour savoir lequel est le meilleur bounty hunter de la galaxie. Échange au cours pendant ce combat, on apprend que tout simplement Fennec a descendu Tonui sur les ordres de son commanditaire à récupérer le pognon et tient absolument aussi à récupérer la gamine pour ce qu'il paraît, pour la mettre en sécurité. Donc le combat se poursuit, pif paf pouf, ça tire dans tous les coins. La gamine fait la rencontre digne d'Alien, d'Alien 4 et finit quand les deux meilleurs chasseurs de primes de la galaxie se mettent sur la tronche depuis 20 minutes, eh bien elle arrive à trouver une navette de sauvetage et de se barrer avec. Enfin, pour une fois qu'elle réfléchit. La Bad Batch Cool Ball arrive pile au bon moment, récupère la gamine, le pognon aussi, je crois. Non, je crois qu'il est tombé, qu'il était dispersé. Donc ils ont plus de... Enfin, je sais plus.
Il est perdu.
Il est perdu pour la cause. Donc, Bane, il l'a dans le nez. Fennec, elle... Elle contacte son commanditaire, qui n'est autre que Nalassé, qui, elle, tient absolument à ce que la gamine soit en sécurité, et tant qu'à faire, elle se dit, finalement, les quatre blaireaux là, des forces spéciales, ça a l'air des bons gros babysitters, et au moins, elle a l'air d'être en sécurité, donc elle dit à Fennec, t'inquiète mamie, on va te payer, mais tu fous la paix à la gamine pour le moment. Et on va attaquer le dernier épisode de ce récapitulatif, l'épisode 10, qui se passe en grande partie sur la planète Raxu, qui est une ancienne planète séparatiste, dirigée par... Comment qui s'appelle déjà ce, par Singh. Papy, là. Papy à chapeau. Donc, alors que l'Empire veut... faire quand même un petit exemple pour cette ancienne planète séparatiste, eh ben, pendant son discours, Singh, lui, il est un peu mauvaise et il amène tous ses partisans et toute la population à se révolter contre l'Empire. Et ce qui fait qu'il finit tout simplement au trou. Mais Papy, il avait un plan de secours. Il demande tout simplement à son droïde de contacter la Bad Batch pour venir à la rescousse. Donc c'est ce que nos jolis troopers font, et pour une fois ils sont pas du tout accompagnés d'Omega, puisque Hunter, il se rend compte que prendre une gamine de 10 ans pendant une opération spéciale, c'est pas forcément la meilleure chose à faire pour la durée de vie de la gamine. Elle reste chez Sid, elle fait légèrement la gueule. Et pendant que nos amis vont tranquillement libérer le sénateur sans trop de casse, même si ça se passe pas aussi bien que prévu, hein, ils arrivent quand même à s'en sortir et à exfiltrer Papy sans trop de problèmes. Et Papy décide de quitter la planète pour mener la rébellion de loin et continuer à tenter de libérer sa planète et ses habitants du joug impérial. À leur retour à la cantina de Sid, Hunter a le plaisir de découvrir que la petite, en plus d'avoir allègrement triché à tous les jeux d'argent qu'elle avait sous la main, à utiliser ses talents de tacticienne qui viennent du fond de son chapeau pour récupérer assez d'argent pour rembourser toutes les dettes que les troopers avaient engendrées auprès de Sid. Et l'épisode se finit avec cette jolie image familiale de Hunter qui va faire mumuse aux échecs avec Omega. Ah là! Alors, qu'est-ce que t'en as pensé?
De ton récap ou des épisodes?
Des deux.
Du nectar, un régal. Oh là là, que d'émotion. Ce que j'en ai pensé, alors c'est bien parce que tu viens de me les remémorer, parce que comme je te disais avant qu'on lance l'enregistrement, je ne me rappelais plus vraiment avant l'épisode 9, je me rappelle déjà plus ce qui s'était passé. Comme quoi ça marque, hein, dis-toi.
C'est vrai que c'est un peu le problème. Pourtant là on a eu 3 épisodes qui s'enchaînaient, donc un vrai arc scénaristique comme on pouvait le retrouver dans Clone Wars. À l'époque de Clone Wars, mais à part ça, il y a...
En fait, c'est visuellement, c'est quand on est devant l'épisode qu'on se dit « Oh tiens, ça c'est joli, ça me rappelle telle chose, ça
ouais, mais au niveau ça. » mais au niveau de l'histoire, il se passe pas grand-chose, en fait.
Il y a des choses qui avancent, mais ça transmet pas vraiment d'émotion, en fait. C'est un peu ça le truc, quoi. Autant dans le premier épisode, moi j'avais ressenti des émotions intéressantes. Là, ça nous pose dans des jolis tableaux, plus ou moins jolis, mais ça nous pose dans des trucs...
Typiquement, l'épisode 6, là, dans l'usine de Corellia, l'épisode, il est passé par une oreille, il est ressorti par l'autre. Hein.
Moi, je l'avais bien aimé. En le regardant, je m'étais dit, j'ai bien aimé parce que j'aime bien les usines. J'aime bien le quand on est dans des usines de droïdes comme ça. Puis, évidemment, ça me faisait penser à l'épisode... à l'attaque des clones. Mais j'avais oublié que je l'avais bien aimé, tu vois. Quand tu as remis le récap, là, je me suis dit « Ah oui, c'était celui-là, d'accord. » Ah oui, j'avais bien aimé, mais au final, il fallait que je me creuse pour me rappeler. Oui, ce dont on se rappelle, finalement, c'est les deux sœurs Caspi, là.
Et ouais, les deux sœurs Martinez et Vraker, qui a mal au crâne.
Ouais.
Qui commence à avoir ses problèmes, ce qui amène à l'arc de 3 épisodes juste derrière. Ouais. Mais le reste, c'est vrai, à part la petite ambiance usine de droïdes de l'épisode 2, Bon, oui, voilà, les mecs vont chercher la copie du disque dur d'Android. Ouais, et ouais, c'est ça, et...
Non, c'était visuellement, c'est comme toujours, c'est visuellement et au niveau de l'ambiance, c'est intéressant. Après, ce qui s'y passe, c'est là que c'est niveau enfantin, comme d'habitude. C'est des scénarios simples, faciles à comprendre. Moi, mon fils, il est passionné, il adore regarder ça, il pose des questions pertinentes, mais par rapport à des événements où nous, on voit gros comme une maison ce qui va se passer, quoi. Mmh. C'est là que je trouve que ça reste vachement enfantin. Et pourtant, visuellement,
les jeux de lumière un peu dans tous les sens, les animations, tout est les ambiances, les différentes ambiances. Alors ça, c'est encore plus, je trouve encore plus flagrant cette image-là. La fumée, l'ambiance sombre, machin, les droïdes dans tous les coins. Mais voilà.
On s'inquiète pas assez pour eux, en fait, par rapport au contexte. C'est ça, grave. On n'arrive pas à s'inquiéter pour eux parce qu'on sait que par une pirouette, ils vont s'en sortir à la fin. Quoi.
Mais bon. C'est ça. Si c'est pas eux qui s'en sortent, ça va être Omega.
C'est ça. Et dans l'épisode dans l'usine de droïdes, quand même, je dois reconnaître qu'en le regardant, par rapport à des choses qu'on avait déjà dites, notamment avec Loïc la dernière fois, j'ai eu un peu le doute que Wrecker, il vrille vraiment et qu'il ne revienne pas. Il y a une tension, à un moment, j'ai ressenti quand même cette tension, si je dois être honnête, cette émotion de la tension vague, et à la fois pour Omega qui était coincé sur le tapis roulant, là, et pour Wrecker de son côté, et puis bah, on voit vite là, comment ça va se solutionner, quoi. Ouais, c'est bon,
Alors,
c'est une tension sur 3 ouais. minutes, hein, attention.
Ouais, c'est ça. C'est l'épisode, il fait 25 minutes.
22 minutes, ouais.
Ouais, pour Wrecker, c'est vrai, je me dis, ah, c'est de... enfin, c'est pas, il y avait, c'est pas, c'était pas, c'était plus, ah, c'est à partir de ce moment-là où il va partir en sucette.
Voilà.
Et l'épisode va se terminer, pardon, je gratte le nez, va se terminer avec Wrecker qui est en train de péter une durite et on va embrayer juste derrière. Pour Omega, coincé sur le tapis roulant, bon, ils ont fait le même coup dans Toy Story 3.
Exact.
Donc,
exact. Et même ambiance, d'autres... putain, oui, c'est ça. À quoi c'est ça me faisait penser, voilà, dans Toy Story 3, exactement.
Donc, bon, ouais. Tuer une petite fille en la balançant dans une cuve de
ça
métal fondu.
Pas. On ne le verra donc, pas, non.
À mon avis, faut pas rêver. Donc voilà, sur cet épisode-là, moi, honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire.
Le petit cliffhanger à la fin de... Qui est le mec dans la toge? Le mec ou la nana dans la toge?
Voilà, quoi. C'est ça.
Nous a occupé une semaine, quoi, spéculer sur qui étaient ces petits plis.
Et puis, en plus, mais ce que j'adore, c'est que... Dans les 2 minutes, dès le début de l'épisode 7...
Suivant,
qui embraye, on a la réponse, on a le truc, et là...
Voilà, c'est ça.
Ça m'éclate parce que c'est vraiment en mode on désactive tout suspense en fait.
Exactement, tout de suite on.
Ouais. On désactive tout suspense, tout enjeu, toute ambition.
Il y a pas d'enjeux qui vont crescendo. C'est des enjeux à hauteur enfantine en fait.
Rex les récupère, enfin les retrouve. J'ai vraiment l'impression qu'en plus les épisodes là s'enchaînent finalement. J'ai l'impression que Rex les retrouve dès que les gars ils ont atterri, ils ont posé le pied, donc juste après l'usine. Les mecs sont pas planqués en fait. C'est ça qui m'éclate. Mmh. Ils sont recherchés par l'armée impériale. Ils ont même pas recoloré, ils ont même pas changé la couleur de leurs armures quoi.
Ouais, c'est vrai.
Ils continuent de porter leurs armures. Je ne sais même pas comment... C'est vrai qu'on est en pendant, je ne sais même pas comment Crosshair les attend pas dans la ruelle à la sortie du...
C'est clair.
Du bar.
C'est clair.
Alors par contre, oui, là, sur cet épisode 7, il y a vraiment, je trouve, une vraie tension. Il y a toute l'ambiance de la planète, avec toutes ces carcasses de vaisseaux.
Ça fait plaisir. Ah, par contre, j'ai une question, tiens, là-dessus.
Ouais, vas-y. Ça se trouve, on a la même, en fait.
Là, en plus, tu mets le visuel. On est d'accord que les vaisseaux, ils sont bouffés par la rouille, là.
C'est couilles. Ça, c'est exactement la même réflexion que
c'est
j'ai.
C'est le Titanic, là, les vaisseaux. Après, au moins 15 ans à l'air libre.
C'est ça. Et là, c'est pas juste deux. On voit vraiment que toute la planète est recouverte.
Les Vénators, ils sont pourris. Mais ils sont là depuis combien de temps, techniquement? Ils sont pas là depuis longtemps. La chute de la République, elle est quoi? Elle est quelques mois, à la limite, suivant les...
Ah non, pour moi, c'était il y a 15 jours, hein, la chute.
Oui,
de la
moi aussi, mais après, peut-être que dans la série, à leur échelle, ça avance de semaines en mois, si on veut.
C'est ça. Alors, peut-être que c'est des vaisseaux qui ont été... Alors, ça pourrait peut-être être des vaisseaux qui ont été endommagés pendant les combats, ce qui pourrait expliquer...
Ouais,
mais c'est vrai que le nombre de vaisseaux qu'il y a, leur état de rouille, c'est pas juste de la rouille. On le voit là, on le voit dans cette image là, quand vous avez juste quasiment sous le logo Star Wars en direct, vous avez des morceaux qui manquent carrément. Donc c'est vrai que l'ambiance est là, mais quand j'ai vu la planète, je me suis dit, attends, c'est censé se passer quand ce machin là?
Ouais, moi je
trouve ça. Et qu'on vienne pas me sortir. Qu'on vienne pas me sortir d'explication de non mais alors c'est parce que il y a là une atmosphère corrosive machin.
Ouais, d'accord.
Leur armure dans ces cas-là, leur armure et tout l'équipement, il se met à rouiller sur place.
Oui,
et je vous rappelle que Omega, elle a pas de casque.
Elle a pas de casque, ouais. C'est ça.
Donc
c'est
essayer de respirer une atmosphère corrosive, Omega, elle fête pas son prochain anniversaire.
Ouais, exactement. Non, ben on va servir l'excuse qu'en effet, ça sert de cimetière, et pas que de décharge, ça sert de cimetière depuis longtemps au vaisseau de la République, on va dire ça. Mais hormis ce petit détail, ça fait plaisir d'être dans cette ambiance-là, le clin d'œil aux jeux vidéo. Mais j'ai pas ressenti tant que ça une tension, une ambiance, si tu veux, désincarné et comment dire sans âme en fait de ce que devrait être un cimetière de vaisseau, chose que je ressentais je trouve vachement dans Fallen Order dans le jeu et même dans The Rise of Skywalker, le peu de temps où Rey elle est sur le Kefbir là, il y a une ambiance beaucoup plus crade, humide, triste qu'il n'y a pas sur ceux là. En fait c'est la luminosité, comme ils sont de jour je trouve que la luminosité est assez douce. Ça apaise un petit peu ce côté cimetière de vaisseau.
C'est vrai que ça annule un peu la tension. En fait, la tension, elle revient uniquement quand quand Wrecker pète une durite, tout se passe à l'intérieur du vaisseau et qu'il n'y a pas d'éclairage, en fait.
Exactement.
Et on le voit dans les images qui sont là. La tension, elle est vraiment là parce que, c'est quasiment la première fois qu'on voit dans la série que le type est capable littéralement de soulever des montagnes. Il les met en miettes, il balance ses frangins et même Omega contre les murs avec une violence. On se rend compte, c'est vraiment la première fois on se rend compte que Wrecker c'est une montagne de muscles, c'est un tank sur pattes en fait.
Bah, c'est marrant que tu dis ça parce que là on a regardé l'épisode 11 ce soir là avec mon fils. Parce que donc je pensais qu'il allait être intégré dans cette émission, j'avais pas trop suivi. Et à la fin du 11, il a voulu revoir l'épisode 1. Je lui dis mais l'épisode 1, il est long, il dure plus d'une heure. Il dit bah c'est pas grave, on met juste le début. Et dans le début, on voit Wrecker justement qui pousse trois tanks des séparatistes, les tanks des droïdes, et qui les pousse littéralement dans le vide. Donc c'est marrant que tu dises ça parce que en effet à ce moment-là, on avait peut-être pas trop fait gaffe, on se disait peut-être
On le voit une ou deux fois comme se battre avec Bébé Rancor, mais on le voit une ou deux fois en fait se taper contre du gros matériel.
Ouais, c'est ça.
Là, on le voit se battre contre d'autres clones et il les met à l'amende. Il les balance.
Il les pulvérise.
Ils ont un mal de chien à l'arrêter. Et ils doivent le paralyser, je crois, plusieurs fois avant littéralement de le bloquer. Et c'est vraiment là où tu te rends compte que totalement libéré et détaché de ses émotions, Il serait comme
comme Crosshair,
une machine à tuer impitoyable.
Ouais, s'ils avaient des soldats comme ça, c'est clair que là ils seraient bien armés, quoi, dans l'Empire.
C'est ça.
S'ils en avaient d'autres modifiés comme ça. Et du coup, très rapidement, après, j'ai pas trop aimé ce moment où ils se font tous enlever leur puce. Très rapidement, c'est dégoupillé, cette situation de tension.
Bah, en un épisode,
on en parle plus.
On
se la
ouais,
voilà.
C'est ça.
On retire, on parle plus.
Petit à petit, tous y passent. Et ils se retirent tous là, ils se font tous retirer la puce. Et au revoir, merci, on passe à la suite.
Voilà, exactement. On n'a pas mentionné le... C'est dans celui-là, le Sarlacc, là, dans la flotte, dans les pages.
Si, il est là.
Voilà, c'est ça, c'est bien dans cet épisode-là.
Mmh. Non, bon, on ne sait pas trop si c'est un Sarlacc ou si c'est pas l'autre bestiole à gneugneux, là.
C'est un Kraken, quoi. C'est la même bestiole que dans Le Seigneur des Anneaux aussi, qui est devant les portes de la Moria. Hein.
C'est le genre de saloperie qui fait que je ne prends jamais de bain, moi.
Voilà, c'est... Putain. T'imagines, tu trouves ça dans la baignoire, c'est sûr.
Ah, c'est foutu, ça.
C'est foutu. Petit clin d'œil, posons des créatures que tout le monde connaît, que tout le monde est content de revoir, comme d'habitude.
Mmh. Ah, je ne sais pas si on l'a déjà vu, cette bestiole. J'arrive pas à me rappeler si on voit l'œil qui sort de la flotte, comme dans Un Nouvel Espoir.
Ouais, mais c'est histoire de mettre un petit antagoniste rapido, un monstre, ça fait flipper les enfants.
Un peu.
Voilà. Mais bon, non, mais c'est bien placé. Après, je me rappelle pas grand-chose d'autre, du coup, de cet épisode. Qu'est-ce que j'ai noté pendant que tu refaisais ton récap? Non, c'est tout. C'est tout ce que j'ai noté. Le Sarlacc et Vricker.
Bon, on passe directement à la suite. Alors,
allez,
réunion,
l'épisode 8, réunion,
qui s'enchaîne quasi instantanément, qui voit la guilde des ferrailleurs avertir l'Empire, et l'Empire envoie ses crosshairs et tout plein d'autres clones nettoyer la zone. Mais en mode nettoyer, hein. C'est pas de prisonniers, on veut pas de survivants, vous nous flinguez tout ça.
C'est clair que quand on voit ton visuel, là, ils sont nombreux, j'avais pas remarqué qu'ils étaient.
Ils sont pas mal, hein. Je crois que c'est la première navette, hein. Je crois qu'il y en a une autre.
Il y en a une autre. Oui, il y a deux vaisseaux à la fin, exact. Il y a deux escouades, ouais.
Et c'est là où aussi on commence à voir que la Massou. Il veut récupérer Omega, enfin, il veut récupérer l'ADN d'Omega. Omega, en elle-même, il s'en tamponne, mais joyeusement, quoi.
Oui, on comprend là vraiment qu'en fait, il n'en a vraiment rien à fuir de la gamine. On se demandait jusque-là... C'était un petit élément un peu mystérieux depuis le début, ça, un petit fil rouge dans le fond, mystérieux, et là, on a une réponse, ouais.
Alors, par contre, là, moi, j'ai bien... Pardon. J'ai bien aimé, moi, justement, cet épisode, parce que je trouve qu'il a une tension constante avec la poursuite entre la Bad Batch et les troupes menées par... c'est quoi, ça? Ah oui, ok.
Il lui apprend à monter le truc, là.
À démonter les grenades. Il y a vraiment, je trouve, une tension, donc, entre les troupes de l'Empire, enfin, surtout sur la poursuite entre les troupes de l'Empire et la Bad Batch. Cet épisode-là m'a beaucoup plu, par contre. Et puis le fait que la Bad Batch essaye de ne pas tuer les gars.
Oui.
C'est ça que j'ai remarqué. Même si Vricker les balance dans le vide de très très haut et leur balance des grosses caisses de munitions très très lourdes.
Sur la tronche.
Ça, mais les autres, en fait, ils essayent de ne pas leur tirer dessus et de se barrer, en fait.
Ouais.
Sans être vus. Alors que Crosshair est un gros malade de psychopathe.
Ah oui, vire. Enfin, dès le début, en fait. Pareil, en revoyant le début de l'épisode 1, là, on se dit, mais dès le début, lui, il est acquis à la cause de l'autre côté, quoi. Les bons soldats obéissent aux ordres, oui, bon, c'est bon.
C'est ça.
Allez, change de camp tout de suite, et puis...
Alors, un truc, content, par contre, qu'il a, c'est le coup dans les moteurs, je me suis marré, parce que, alors, autant le coup du « on va tous les faire cramer », ça m'amuse. Mais alors, je sais pas si tu vois la taille de la tuyère. Dommage, on n'a pas l'image. Mais la taille de la tuyère des Venators, Et t'as l'impression que les gars, que la Bad Batch, là, ils mettent 4 grenades,
ouais,
les unes à côté des autres sur le pourtour, ouais, et ça fait tout tomber.
Il y a un problème
Et là, honnêtement, je me suis bidonné dans cette séquence, parce qu'il leur en faudrait des centaines de grenades, là, ou d'explosifs pour séparer toute la tuyère. Et comment ils font tout le tour?
Comme un hamster avec l'élan.
C'est un hamster. Tout en haut et puis machin.
Un gros hamster de l'espace.
C'est là, ça m'a fait bien marrer, quoi, cette séquence-là.
Mais alors, c'était beau quand même. C'était joli, super beau.
Là, il y avait de la tension parce que tu voyais quand même que ça arrivait, le bordel. Mais alors, le coup de cramer les sourcils à Crosshair, franchement, je l'ai pas vu arriver.
Les sourcils et les cheveux. Il a plus de cheveux après.
Ouais, et il a une belle grosse balafre sur le côté du visage.
Exactement, comme s'il avait déjà passé une sale gueule. Ils te l'ont reméchantisé.
C'est ça.
Donc,
quoique, c'est léger. Hein. Ce qu'il a, il a quasiment rien hein, dans l'épisode 11 où on le voit sans bandage. À part une petite cicatrice sur la tempe, il a que dalle.
Ouais, mais du coup, il a les cheveux tout ras, ça lui donne un côté un peu plus... Il les avait pas très très longs avant, mais...
Quand tu vois Rex, pour moi, c'est son sourcil. Hein.
Ouais, ça fait pas pareil, je trouve que... Il est plus clair de peau, il est plus grisonnant, enfin, il est...
Ah bah, c'est un nazi,
hein. Il est grisâtre,
hein.
Oui, bah voilà, c'est ça. À chaque fois, on arrive à le placer, ce mot, par épisode, à chaque fois, on dit ça.
Alors par contre, moi, ce qui m'a vraiment énervé et fait sortir de l'épisode, bah, c'est retour de Clint Eastwood, là.
Ah ouais, ça t'a
gavé. Ça m'a gavé, en fait. Parce que on avait les sœurs Martinez dans l'épisode d'avant, là on a Cad. L'épisode d'après, on a Cad et Fennec. Petit machin. C'est les filonneries qui me gavent.
J'en étais sûr que t'allais donner ce mot-là. J'en étais sûr.
C'est les filonneries. Moi, ça m'a vraiment fait sortir du... ça m'a fait vraiment sortir de l'épisode.
C'était la fin, heureusement.
Hein? Ouais. Mais et voilà, il nous repop un de ses persos favoris, il nous les remet là.
Il aime ça, vraiment.
Il aime ça, mais je trouve ça gonflant, parce qu'on n'arrête pas de... Enfin, après l'épisode 9, Star Wars nous a dit, allez, la galaxie est vaste, on en a fini avec les Skywalker. Et dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un énième reboot des comics Star Wars, et on a un énième reboot de la série Dark Vador. Et la série Star Wars est encore sur le Luke, Han et Leia, et maintenant Lando, puisque maintenant elle est déplacée entre l'épisode 5 et l'épisode 6. Le prochain reboot, c'est entre l'épisode 6 et l'épisode 7, hein, je vous l'annonce direct. Ils sont incapables d'aller au-delà, de faire ce qu'ils nous avaient promis. À un moment, tu fais popper n'importe quel autre chasseur de primes. C'est quoi? Il est où le problème?
Oui, surtout qu'ils doivent avoir des créations en stock, hein, des concepts d'art.
Ils ont des créations en stock. Ils pourraient même faire un chasseur de primes lambda qui arrive à neutraliser Hunter avec des pièges électriques ou tout ça, et qui, par exemple, se fait bolosser l'épisode d'après avec Fennec. Et là, il nous repop son perso. Alors, certains d'entre nous vont dire, oui, mais parce que tout est lié. Mais c'est ça, le problème, c'est que tout est lié.
Tout est toujours lié là-dedans. La galaxie, elle est énorme, et en fait, c'est toujours lié.
Elle est énorme,
en
fait, on tourne à 20 persos. Hein. Il y a 20 personnes sur lesquelles repose le destin de la galaxie.
À l'échelle d'une ville de 5000 habitants, quoi, c'est toujours les mêmes personnes. Non, en fait, c'est un peu plus grand que ça, mais ils sont forts pour se retrouver, quoi. C'est du Tinder à l'échelle galactique, quoi. Tu vas forcément trouver ton âme sœur là-dedans.
Ton âme sœur, ce sera ton voisin de droite, en fait. Et ton pire ami, ce sera ton voisin de gauche.
Bah, si ton âme sœur, c'est un alien, tu fais avec, quoi.
C'est Thomas qui serait content.
Moi, ça m'a pas dérangé à la fin, son arrivée, parce que c'était la fin, et que je comprends que ça t'est sorti, parce qu'on change complètement d'ambiance. On a la musique, on a les plans, on a la construction.
Ça passe en ambiance. C'est même pas le changement d'ambiance, c'est vraiment, je te fais popper ce personnage-là.
Ça aurait été un autre, ça t'aurait pas gêné. L'ambiance.
Ça aurait été un autre, ça m'aurait pas gêné. Qui remettent encore. Hein, parce que ce que je me rends compte, en fait, surtout, c'est que il y a aucune création originale.
C'est pas son but, hein, sûrement.
À part le personnage de Fennec et allez, celui d'Omega, ils sont où les personnages inédits qu'on n'avait pas vus avant?
Ils vont te dire que c'était pas leur but. Ils vont te dire que le but, c'était de développer la Bad Batch existante. Et de la mettre dans un contexte à peu près
Que la Bad Batch existante, on l'avait vue uniquement dans 4 épisodes, la saison d'avant. Donc pour moi, ils ont... Honnêtement, plus ça va et plus je me dis qu'on n'est pas face à un spin-off. On me dit, comme le dit Loïc dans le trou, on est sur la saison 8 de The Clone Wars.
Point. Oui, oui. C'est une exploitation d'un contexte.
Ouais, mais ils nous l'ont pas vendu comme ça. C'est ça le problème. C'est pour ça, tu vois, que je n'aime pas le film Mad Max Fury Road.
Pas vu.
Bah moi, je te le recommanderais pas parce qu'il y a écrit il y a Mad Max dans le titre. Or Mad Max, c'est pas le personnage principal.
D'accord.
Moi, tu me donnes un film. C'est comme si je te faisais un film qui s'appelait Les Dents de la Mer et ce serait l'histoire d'une jeune archéologue au milieu du Sahara qui cherche des tombeaux égyptiens. Et pourquoi tu m'appelles ça Les Dents de la Mer? Ah bah parce qu'elle a un tatouage de requin. Non, tu te fous de ma gueule, là, c'est pas possible. Moi, c'est pareil. Je reviendrai un peu plus tard quand on passera sur le prochain récap, sur le fameux épisode 11. Mais là, clairement, Filoni s'est payé ma tête avec cette série-là. Il développe rien. On est à l'épisode 9, on n'est pas encore passé sur le 10. On en est où de l'histoire d'Omega?
Pas grand-chose. C'est vrai que reste plat.
Voilà, c'est juste dans cet épisode 9 qu'on va détailler un peu là, qu'on apprend enfin le début du comment, qui est aussi, je trouve, une belle connerie comme explication.
On passe dessus du coup.
Ouais, on va basculer dessus. Donc là aussi, il y a quand même une petite ambiance. Il y a des trucs. Pour moi, la série là ne vaut que pour ses graphismes et son ambiance.
Mais c'est ça, mais c'est tout le temps visuellement. C'est visuellement.
Mais là, le combat, honnêtement, entre les deux clowns, c'est du grand n'importe quoi.
Ah, ça m'a saoulé, moi, au bout d'un moment. Allez, une rencontre, ok. La deuxième, la troisième, ça m'a cassé les pieds. C'était concours de gadgets. Moi, c'était les concours de gadgets.
C'était concours de gadgets. Et puis, je veux pas dire, mais on n'arrête pas de nous dire qu'il faut arrêter les clichés racistes. Mais bon, l'asiatique qui fait des arts martiaux, le cow-boy qui utilise les flingues et machin, c'est du cliché à tous les étages. Pour un chasseur de primes, il a quand même un robot à la con. Hein,
ouais, c'est vrai qu'il pourrait.
Qui se fait bolosser par une gamine de 8 ans.
Ouais.
Après, bon, c'est vrai que j'ai quand même bien aimé le fait que Fennec, elle flingue directement et puis elle se barre avec les crédits. Bon, après, d'un côté, je comprends pas non plus pourquoi elle est pas directement dit à Omega, voit la Kaminoenne.
Ouais, c'est ce que je me suis dit tout de suite. Pourquoi elle lui a pas dit ça directement?
Bah, ou même là maintenant, au lieu de dire allez viens on se casse, écoute, tiens tu veux la preuve, j'appelle machin.
Ouais.
Elle te veut en sécurité. Après que Omega dise ah, oui d'accord, mais moi je préfère rester avec
mes potes.
Avec les clones. Il y a pas de souci, là c'est un petit manque de logique, et puis je trouve qu'on perd quand même globalement la tension qu'il y avait dans la parce qu'à aucun moment je me suis inquiété pour la Bad Batch ou pour Omega. Même dans la visite musée des horreurs, rien de...
Visuellement, il y a des trucs très positifs et il y a des trucs.
La plateforme est cool. L'ambiance, ce mélange entre Kamino et Bespin.
Bespin, ouais, bien sûr.
C'est Kamino dans les nuages, là. Et est assez cool, mais.
En fait, les ambiances, visuellement, tu peux faire des arrêts sur image et t'as l'impression d'être dans un artbook.
C'est ça, c'est
magnifique. T'as l'impression d'avoir sous les yeux des concept art, voilà, même pas des trucs utilisés, et des trucs où tu rêves devant quand tu feuillettes les beaux livres Star Wars, où on te met vaguement une légende, et ça, ça fait rêver. Ça peut être inquiétant, ça peut être apaisant. Et t'as ça dans cette série, dans les épisodes à chaque fois. Mais comme le fond, le message de fond ou la mission qui se trame en parallèle, elle est toute pétée, ça perd en intensité, c'est dommage en fait. Mais je pense que c'est voulu pour ça, quoi. C'est voulu pour en mettre plein la vue, mais pour que les enfants regardent bien et qu'ils aient pas trop à se prendre le chou, quoi. Et nous, on se prend trop le chou sur ce qu'on n'a pas. C'est ça. Et visuellement,
c'est
dans cet épisode,
là,
tu crois? Qu'est-ce que j'ai noté, moi, dans cet épisode 9? Donc, ouais, la foire aux gadgets, j'avais noté entre Cad Bane et Shand. J'en ai eu marre qu'ils se lancent des trucs, lance-flammes et tout, triple attaque. Je m'attendais à ce qu'elle sorte une bombe lacrymo à un moment, tu sais, pchit, comme ça. Ah, merde, je l'avais pas vu venir, celle-là, exactement.
C'est ça.
Des visuels sur les vaisseaux sublimes, j'ai marqué. Alors, je me rappelle déjà plus, mais du coup, quel vaisseau? Ça doit être les vaisseaux, soit son vaisseau à lui, à Cad Bane, quand ils arrivent, ou peut-être même un peu le vaisseau de la Bad Batch, je sais plus ce que j'ai noté, mais dans ce décor de nuages, j'ai dû noter un truc comme ça, et c'est vrai que c'est joli, quoi. Les cuves vertes, là, avec le slime, là, où elle est devant la gamine. Ça avait un petit côté sympa qui rappelait d'autres moments dans les cuves, évidemment, dans l'Ascension de Skywalker notamment, ou dans la saison 2 du Alien Mandalorian, 4. Ou dans Alien 4, comme tu veux. Les bocaux à cornichons où il y avait Snoke, évidemment.
C'est ça. Mais alors là, malgré ce que certaines théories disent, il n'y a pas de Snoke. Par contre, la créature qu'ils enfin le bocal qu'ils explosent, c'est un Kaminoïen.
C'est un Kaminoïen, ouais.
Et on voit d'autres types de créatures dans d'autres beaucoup, mais pas de Snoke. Et puis, moi, il y a un truc qui m'a étonné dans les commentaires de certains. Certains ont découvert que les Kaminoïens se clonaient entre eux, en fait.
Oui.
On sait ça depuis l'épisode 2, en fait.
Qui se clonent entre eux?
Oui, ils se clonent. C'est leur moyen de. C'est leur moyen de reproduction, en fait.
Ah non, mais je savais pas non plus, moi, tu vois.
Ah si, je sais plus. Je sais plus dans quel bouquin. C'était peut-être dans les bouquins de Karen Travis.
Et ils font ça parce qu'ils sont pas assez nombreux
Non, ils font ça parce que c'est leur mode de vie, maintenant.
D'accord.
L'adaptation, maintenant. C'est pour ça que c'est des maîtres cloneurs. Comme ils se clonent eux-mêmes pour...
Ils maîtrisent le clonage.
Ils maîtrisent le truc. Il y a personne qui sait faire ça aussi bien qu'eux.
D'accord, ok. Ok.
Et c'est là où on apprend, donc, et ça m'a fait... moi, j'ai eu les neurones qui vrillaient, quand même. Où on apprend, donc, que Omega est un clone
pur.
Génétiquement pur de Django.
De première génération, c'est vrai.
C'est ça, donc là, pour moi, déjà, moi, j'ai le cerveau qui vient de gripper.
Bah, ça peut pas être un clone,
ça peut pas être
c'est
un clone
fille,
pur,
elle a pas les mêmes
puisque
gènes,
c'est
hein.
Une fille.
Alors, à moins qu'ils aient eu un autre matériel génétique dans les chromosomes dans Star Wars, mais...
C'est
priori...
ça, non, mais même si c'est l'ADN de Django, ils ont simplement modifié un chromosome...
Pour le sexe, oui.
Pour le sexe, eh ben, c'est plus le même ADN, les gars, vous avez fait une manipulation génétique.
Oui,
donc c'est... Donc, même s'ils n'ont rien d'incorporé d'autre, c'est une manipulation génétique, même si elle est basique... Par rapport à ce qu'ils ont fait aux autres clones.
Oui, c'est pas.
C'est con ce que tu dis, en fait.
Ouais. Autant Boba Fett, oui, c'est le clone pur, c'est le même et non modifié, avec une croissance non modifiée. Mais du coup, j'entendais ou je lisais des gens qui comparaient, du coup, Omega et Boba. À part le fait que ce soit deux enfants qui, au moment où ils nous sont présentés, ils ont l'air d'avoir à peu près le même âge, la même taille, mais enfin, il n'y a pas de lien, quoi. C'est. Non, ils sont quoi l'un pour l'autre? Non, c'est juste un clone de plus, quoi, Omega. Mais pourquoi
c'est ça, surtout qu'en plus, Omega, on se rend compte, au fil du temps, que elle a les super pouvoirs des clones. Donc, elle est très forte tactiquement.
Ouais, tactique, ouais.
Elle est très bonne au tir. Tu vas voir que demain, elle va être très bonne au pilotage. Ça, on sait que... alors, c'était peut-être dans l'univers Legend, mais on sait que les clones ont été modifiés pour être pour être meilleur au tir, meilleur au pilotage, machin, qui est même des clones pilotes parce qu'on les a spécialisés dans le pilotage.
D'accord.
Donc, il y a un moment, on me dit « Ouais, mais elle est pas modifiée, c'est une clone pure. » Ouais, mais elle a, en fait, elle a les mêmes capacités qu'un clone lambda. Donc, elle a subi le même traitement, quand même, un peu, non ? Non ? Donc, c'est... Moi, j'ai le cerveau qui a vrillé. J'ai vrillé quand ils nous ont dit « Non, mais c'est une clone pure. » Hein ?
C'est... Donc, ouais. Django était une fille, en fait.
C'est ça. C'est... Qu'est-ce que vous essayez de nous dire, hein ?
S'assumez pas. Dans le contexte actuel, voilà, c'est ni un garçon ni une fille.
C'est ça. C'est
Django était non-binaire.
C'est pour ça qu'il a demandé un petit boba.
Là, ça devient dégueulasse.
C'est ça. Mais il y a un truc que je me demande quand même avec Boba. Puisqu'il l'appelle, si je dis pas de bêtises, hein, si j'ai pas rêvé, Omega est appelé Omega parce que c'est la dernière des clones.
La dernière quoi ? La dernière qui est née ?
Ouais, la dernière qui est née, machin, ou la dernière produite et machin. Donc Omega, c'est la fin.
Oui.
Et ils disent que Boba est le premier. Et il l'appelle Alpha. Si j'ai pas rêvé. Est-ce que ce Alpha-là, c'est une référence au clone trooper, à l'arc trooper Alpha dans l'ancien légende, où ils ont voulu nous faire l'Alpha, l'Oméga, le début, la fin et de tout le bazar.
Il y a peut-être un truc, mais à mon avis, on se monte la tête pour pas grand-chose. Mm. On aime bien faire des grosses théories, puis au final, la réponse, elle est toute simple.
C'est ça.
Elle n'est pas inexistante, mais elle est simple, généralement, leur réponse.
Et l'autre question que je me pose est finalement, Boba, il va la voir, sa petite sœur, ou pas ? Enfin, sa sœur jumelle.
Est-ce qu'ils s'entendent bien ? Est-ce qu'ils se crêpent le chignon ? Est-ce qu'ils s'insultent à Noël ? Ouais. Ouais, grosse question. Ouais, sauf qu'après, s'ils nous ramènent Boba, tu vas gueuler encore.
Ouais, effectivement.
Ouais. Mmh.
Sauf que là, aux dernières nouvelles, il est pas en tôle, justement.
Ah, je sais plus où il a lui à ce moment-là.
Je sais plus où est-ce qu'on l'avait quitté.
On l'a laissé avec les pirates, non ? Dans The Clone Wars. Ouais, je sais plus non plus sa date. Hein.
Bon, bref. On va attaquer quand même l'épisode 10. Hein.
Allez.
Donc là, le dernier du coin sur la planète, l'ancienne planète séparatiste.
Radsus, aimé... non, c'est ça, moi je connaissais pas le nom de cette planète.
Ouais, j'ai beaucoup aimé le début, où tu vois finalement, un peu comme le début de l'épisode 11, là, où tu vois l'Empire qui impose sa volonté à coup de blaster.
Ouais.
Face à la foudre, c'est toujours le même principe un peu dictatorial qu'on voit là. On rassemble tout le monde, on fait venir les troupes armées derrière, et puis il y a le discours derrière. C'est un épisode où on voit quasi. C'est l'un des rares épisodes, en fait, où on voit la Bad Batch en mission. Mmh. Et que ça se passe bien. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Par contre, j'ai pas trop compris leur réticence sur le fait que. Ah ouais, mais c'est un ancien monde séparatiste. Les gars, à ce moment-là, il n'y a plus de république, il n'y a plus de séparatistes, il n'y a plus qu'un empire. Donc, j'ai pas trop capté leur réflexion, comment ça s'appelle ? Étonnement.
Comme on l'avait dit dans le dernier épisode, c'est que il faut penser en termes de. Pour les clones, le fait qu'ils soient paumés, quoi, qu'ils soient. Eux, en particulier la Clone Force 99, mais qu'ils soient paumés dans leurs repères. Nous, on bossait pour la République, c'est les gentils. Tous les autres, c'est des méchants. Maintenant, la République devient l'Empire. Sauf qu'on voit bien que cet Empire-là, eux, comme ils ont un peu de libre arbitre, ils voient bien que cet Empire-là, il est plus gentil. Du coup, les amis de mes amis sont mes amis, les ennemis sont mes ennemis. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'ils sont toujours un peu paumés là-dedans, peut-être aussi par rapport à certaines figures qu'ils ont pu combattre. Il y avait la même chose dans le comics sur Kanan que je suis en train de lire, où Kanan rencontre des gens à des moments qui ont fait partie des séparatistes et qui l'a officiellement combattu ou lui directement, mais sinon plus particulièrement la République et les Jedi dont il faisait partie, et où il se pose cette question de dire, mais attends, avant on s'est battu l'un contre l'autre, et là t'as le séparatiste qui lui dit un truc du genre, bah ouais, mais est-ce que t'étais dans le bon camp à ce moment-là? Mais les cartes ont été redistribuées aussi, donc arrête de te prendre le chou. Si là t'as confiance en moi, ou si tu sens que la chose est juste à faire, bah on s'entraide, on se défend, ou quoi, ou qu'est-ce. J'ai pas trop senti, moi, ce que tu dis là dans cet épisode, parce que tu vois bien que le gouverneur là de la planète, ils le font passer pour un gentil papy en plus. Le mec, il est habillé comme Casse-Noisette, quoi, dans le palais de Tchaïkovski. C'est tout de suite ce que je me suis dit. C'est qui ce Casse-Noisette là? Il est mignon, il a des grosses roues flaquettes et tout. On voit bien qu'il a l'air mignon, quoi. En plus, il a tout de suite un cas de conscience. Ça, j'ai bien aimé. Avec d'un côté la petite officier impériale là qui lui dit si allez, vous savez ce qui est bon, il faut s'y plier, vous savez que c'est le mieux pour votre planète, et lui qui dit oui, et puis en fait non, c'est plus fort que lui. J'ai trouvé ça beau, genre un peu un symbole de liberté à la Braveheart là. Je me suis dit, il va crier liberté là, il va leur montrer son cul.
Et il va se faire découper.
Franchement, voilà, moi je m'attendais quand même à une petite exécution pour l'exemple. Et non. Et ce débat intérieur au sein des gouverneurs, des gens qui ont le pouvoir, un peu comme dans l'épisode 11 au final, ça c'est intéressant, et c'est quelque chose que, pour le coup, qui n'est pas spécialement destiné aux enfants, qui est un petit peu trop compliqué à comprendre pour eux, mais ça fait toujours un clin d'œil sur les dictatures de l'histoire qu'on a pu connaître, ou enfin dont on se souvient. Ça, c'était intéressant. Après, toute la mission commando pour aller le chercher, moi ça m'a pas spécialement passionné, sincèrement. Qu'est-ce que j'ai noté dans cet épisode? Oui, alors j'ai noté un truc que tu as déjà dit l'épisode d'avant, mais que j'avais pas remarqué. C'est qu'en effet, on s'est fait la remarque avec mon fils qui, la Bad Batch, utilise des armes non létales contre les autres clones. Donc en effet, dans le but de ne pas les tuer ou de minimiser les dégâts. On voit bien que les pistolets sont sur le mode neutraliseur, là, leur rayon bleu, là, juste pour les immobiliser, les rayons immobilisants, mais pas dans le but de tuer froidement.
Paralysant. En tout cas.
Paralysant, merci. Et on l'a remarqué dans l'épisode 11 à un moment. Et ça, c'est vrai que c'est à souligner qu'au moins la Bad Batch, eux, ils essaient de ne pas tuer leurs anciens frères, même s'ils savent bien que dès que les autres vont les voir, ils vont vouloir les buter. Mais eux, ils font cet effort-là pour leur conscience qui les ancre dans leurs valeurs. Et ça, c'est intéressant.
Bon, après, tu vois, sur une image comme ça, bon, s'il y a des clones dans la TE, bon.
Oui, ça brûle un peu.
Ceux qui sont à l'intérieur, à mon avis, ils ont légèrement mal au crâne.
Ça peut piquer. Pour remettre en contexte la planète Raxus, moi, je ne me souvenais pas de ce nom, mais après explication par des amis sur Internet, on la voyait apparaître dans The Clone Wars, je ne sais plus dans quelle saison, mais dans un petit arc où il y avait Padmé qui était envoyée pour faire des négociations avec une leader séparatiste.
Ah, c'est sur cette planète-là ?
C'est sur cette planète-là, une leader séparatiste un petit peu véhémente, qui, et donc comme Padmé privilégie toujours les négociations, bah c'est elle qui a été envoyée, et elle avait emmené Ahsoka avec elle, et la leader séparatiste, elle avait un fils, et Ahsoka et ce fils-là, ils s'étaient bien entendus, ça m'est bien revenu à l'esprit.
Quand on
m'en a parlé, on m'a dit, mais si, c'est la planète où Ahsoka, du coup, elle a remis aussi en question ses principes, justement comme ça, de cette ambivalence du bien, du mal, non, tout n'est pas tout noir, tout blanc, la leader séparatiste, elle avait ses arguments réels, et sa petite relation avec ce petit jeune homme, Ahsoka, ça avait été... ça remettait en question un petit peu, peut-être ça amorçait aussi ses questionnements sur l'ordre Jedi et la République en général. Et puis, bon, il y a éventuellement... ils se sont roulés une pelle ou deux, quoi. Enfin, il fallait bien qu'ils s'occupent un petit peu, les ados. Ça m'est bien revenu à l'esprit à ce moment-là que c'était cet endroit-là. Mais j'avais pas le nom en tête, Raxus, franchement, ça me disait rien. J'avais pas reconnu. Et dans le même épisode, puisque, comme tu le disais, ils ne se sont pas... remets ce visuel, bien, très bien. Ils ne se sont pas encombrés d'Oméga, comme tu le disais. C'est vrai que ça fait plaisir.
Ils l'ont laissé à la maison, là.
Ouais, laissé là avec la mamie, là, parce que c'est vrai que ça saoule un peu de se la traîner. alors, sur la gauche de l'écran, l'alien chelou avec une tête... une tête bizarre, là.
Une tête de avec marteau.
Avec une tête de requin-marteau.
C'est pas un Ithorien.
Je ne sais plus comment s'appelle l'espèce, mais lui et son pote, qu'on voit depuis le début dans la taverne, ils sont là en pilier de barre dans la taverne à chaque fois qu'il y a, il y a des morceaux d'épisodes.
C'est Dédé et Gégé.
C'est, si tu veux, appelons-les comme ça. Ceux qui boivent un petit verre de vin rouge dès 9h30 le matin. Il y a aussi quelqu'un sur un Discord qui a judicieusement fait remarquer qu'il y avait une grande chance pour que ce soit les mêmes que deux aliens qui sont dans les mêmes cellules, attention, tenez-vous bien, que l'arc d'Ahsoka avec les sœurs Martinez-Pérez, là, dans la saison 7 de The Clone Wars, quand elles sont enfermées par le collectif des... du Soleil les Noir, là. Oui, ceux qui bossent avec Maul, là, en parallèle, là,
Soleil Noir.
Oui, voilà, c'est ça. Ou Obécarla, je sais plus, un des deux. Enfin, ceux qui ont des aliens qui ont une drôle de tête, une drôle de collerette, là. Elles sont enfermées, Ahsoka et les deux sœurs, elles sont enfermées dans une cellule. Et dans une autre cellule plus loin, on voit deux mecs qui ont clairement la tête du mec à gauche et de l'autre à droite du bleu. Et on les voit, cette personne, elle a fait un plan, elle a fait une photo, et ils ont vraiment la même tête. Ils se font libérer d'ailleurs par les deux sœurs Martinez quand elles s'échappent de cette prison.
Ça se trouve, c'est eux.
Et voilà, donc c'est un petit clin d'œil qui n'est pas autant faire popper un personnage comme Cad Bane, mais il faut l'avoir remarqué. C'est vrai qu'ils sont assez récurrents là en pilier de barre, donc je trouvais ça intéressant et mignon qu'ils l'aient remarqué.
Bah, moi, ce que je remarque là sur l'image, c'est que le blondinet derrière le bleu, c'est clairement un modèle d'un Mandalorien, ça.
Ouais, exactement,
la c'est forme du là. Visage.
C'est prévise là, ouais, c'est exactement ce que je me disais à l'instant aussi. Absolument.
Et je remarque un truc marrant, c'est là, tu sais, on voit Papy Gâteau là.
Ouais, oui, avec son derrière, monocle là.
Avec, ouais, et la forme du. Normalement, c'est Dark Vador. Non, il a ce chapeau là. Mais là, comment la capture est faite, quand la coupure est faite, on dirait typiquement les casques des
impériaux, des officiers.
Ouais, des impériaux.
Oui,
sur Hoth. Ouais, c'est c'est l'amiral Vierce, je crois qu'il y en a un comme ça. Je viens de tilter ça comme ça.
Buckethead, là, oui, oui.
Ouais.
Exactement, oui. C'est marrant de s'arrêter sur ça.
Alors, la fin de l'épisode est assez marrant. C'est vrai que tu apprends qu'en fait, la gamine, elle a utilisé ses dons pour piquer de l'argent et arnaquer les gars pour tout rembourser.
Bah ouais, c'est pas con. Moi, j'aime bien cet aspect qu'il lui donne.
Ouais, ouais, c'est assez marrant. Et puis... C'est vrai que là, ça termine, c'est une petite note mignonne avec Tonton Hunter qui veut vérifier que sa nièce est effectivement une stratège.
Exactement. J'avais trouvé dans l'épisode précédent, sur un plan, quand Omega s'échappe, là, pendant que Cad Bane et Fennec Shand se la colle là, elle s'échappe là, dans une capsule. Il y avait un plan sur son visage où j'ai trouvé qu'elle était changée physiquement. D'un coup, sur le plan, j'avais trouvé que ça lui donnait un visage un peu plus adolescent par rapport au visage enfantin qu'elle avait avant. Mais je me suis fait cette réflexion, juste sur ce plan là. Après, à d'autres moments dans la suite de l'épisode ou dans l'épisode d'après, je me suis dit oh non, c'était une idée que je m'étais faite. Mais à la fin de l'épisode 10, quand tu la vois du coup en stratège sur son jeu d'échecs là, enfin de Dejarik, et je trouve qu'elle re-récupère cette tête un petit peu plus mature, ce qui me fait dire aussi que tu vois la timeline, elle n'est pas forcément sur 15 jours comme on en a l'impression, mais peut-être qu'il y a quelques semaines, quelques mois qui passent, et que déjà elle grandit, et que dès le début on sait pas quel âge elle a, mais si c'est une gamine qui a genre 12 ans, ça change vite les gosses à ce moment-là. Elle s'endurcit au contact de la Bad Batch, puis au contact de Sid, des pirates, des alcoolos de la taverne là. Et je pense qu'ils vont la faire évoluer légèrement, comme ils avaient fait avec Ahsoka, alors peut-être d'une saison à l'autre si on en a d'autres, mais il y a des plans où je trouve que volontairement...
Je suis pas sûr qu'on ait d'autres saisons.
Oui, c'est vrai qu'à chaque fois, on met ça sur le tapis, mais non, peut-être pas.
J'ai pas vu d'infos, à moins qu'on ait loupé un truc, mais j'ai pas vu d'infos.
Non, c'est vrai, moi non plus. Mais cette possibilité d'évolution, comme c'est une enfant, ça peut être juste des petits éléments physiques, comme le moment où ils lui ont enlevé son truc, là, son serre-tête, là, son diadème. À partir de là, déjà, sa coiffure a changé. Et il y a des moments là où dans une image que tu avais mise, là où on la voyait, son regard, voilà, ça je trouve que c'est intéressant, ça lui donne un petit peu de corps et d'intensité.
Ouf, moi c'est surtout un regard du...
Je t'ai niqué. Ouais, bah, elle a de l'argent de poche, comme ça.
Ouais, mais c'est vrai qu'elle a... C'est vrai qu'on pourrait dire qu'elle a gagné un peu en maturité, mais...
Bah déjà, elle a pas fait une crise pour aller à Tonton.
Elle a accepté. Si. Bah si, quand même, au début, elle est pas contente.
Ah, moi, j'ai cru qu'elle allait se barrer. Je me suis dit encore, oh, putain, elle va se barrer, elle va encore s'attirer des ennuis, elle va me saouler. Mais non, déjà, elle est restée avec Mémé. Donc, ça, c'est bien. Tu vois, elle a pris sur elle. Elle a joué aux échecs, elle s'est fait du pognon.
C'est ça. T'imagines la morale qu'on te dit, allez, gamin, va au casino, va gagner du pognon.
Oui, mais tu restes en sécurité, tu fais pas chier. Tu joues à des jeux en ligne, à des jeux d'argent en ligne.
C'est ça. Et donc, allez, pour finir, parce qu'on est là à quasiment une heure et quart, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ces... Par rapport aux 5 premiers épisodes, qu'est-ce que t'en as pensé quasiment de ce deuxième tiers?
Bah, je trouve que ça avance un petit peu quand même plus sur l'intrigue, finalement. Hein, c'est quoi l'intrigue de départ? Ils sont poursuivis, donc ça peut aller loin. Au moment où on les attrape, comme on sait pas trop identifier l'intrigue de départ, là, il y a une intrigue sûre, c'est que ils veulent récupérer Omega, ils sont pas les seuls, et a priori, pour des raisons de clonage. Voilà. Bon, bah, c'est pas que c'est pas intéressant, parce que c'est intriguant, mais c'est long, quoi. C'est... Au final, tu vois intervenir plein de gens, mais ça ne reste que sur elle, finalement. Ils servent à rien, ils servent pas à grand chose, quoi, les autres autour. Ils font contexte.
J'ai un peu le même ressenti. Au final, on a ce petit fil rouge Omega et son ADN.
Exact, voilà.
Et pas grand chose d'autre autour.
Parce que même le fait que regarde que la Bad Batch soit poursuivie par Crosshair ou par l'Empire en plus général. Au final, l'Empire, de toute façon...
On le ressent pas.
Bah, on le ressent pas, mais l'Empire, on sait qu'ils poursuivent tout le monde. De toute façon, tous ceux qui vont parler différemment de leur discours, ils vont les poursuivre. L'équipe de rebelles, des séparatistes, Saw Gerrera. De toute façon, il faut qu'ils poursuivent des gens. Il faut qu'ils soient les méchants. Il faut qu'ils leur trouvent des choses à leur reprocher. Donc, que ce soit la Bad Batch ou autre chose qu'ils poursuivent, ça, c'est même pas choquant, j'ai envie de te dire.
Mais même là, on pensait qu'il y aurait une tension avec Crosshair. Et la tension, elle est là quand il est dans l'épisode. Mais le reste, on sent pas là. Ils sont, comme je disais, ils sont à visage découvert, ils sont armure. N'importe qui.
Oui.
Faut pas me faire croire que tous les gens là dans cette cantina, ils sont loyaux à Sid, machin. Les mecs, ils sont. Même l'épisode avec Rex. Ils sont en armure, Rex est en armure. S'ils sont poursuivis, ils sont grillés en 2 minutes.
Exact.
Donc il n'y a pas la tension qu'on aurait pu penser avec Crosshair te fout les pétoches dès qu'il apparaît, parce qu'on sait qu'il est... Le mec est... Il est droit dans ses bottes, il est fixé sur son objectif. Le reste du temps, t'as l'impression que les mecs, ils peuvent vivre comme ils veulent, quoi.
Exact, ils s'achètent du pop-corn, là, tranquille.
C'est ça, ils se baladent en armure absolument tout le temps. En plus, c'est même pas... Ils rentrent par la porte de derrière, chez Sid. Ils passent par la porte principale, donc celle
Coucou,
qui donne directement...
Coucou, c'est nous, on est revenus.
C'est ça, c'est limite le vaisseau, il le garde dans la rue.
Exactement. Avec, en warning, là, ça clignote. Bon, tu me le gares, hein, on arrive.
C'est ça.
C'est la bad batch.
C'est ça que je trouve un peu... un peu chiant dans cette série, c'est pas qu'on nous promettait mondes et merveilles, mais c'est qu'on nous dit, on nous donnait un groupe de forces spéciales un peu anormal, poursuivi par l'Empire juste après l'ordre 66. Et il y a pas, tu t'attendais à ce qu'il y ait de la tension, qu'il y ait un truc. Et là, les gars,
Depuis qu'ils ont un QG chez Sid, là, il y a plus cette tension
Ils l'ont eu à l'épisode 3.
Avant, je trouve qu'il y avait quand même cette cavale, voilà, cette idée qu'ils étaient en cavale. Ils changeaient à chaque fois. Là, le fait qu'à chaque fois, fin de mission, il y ait un point de ralliement, voilà, chez elle, avec ses informations et tout à elle, c'est trop répétitif et c'est trop gros, en effet, pour que ça soit pas grillé. Elle, c'est pareil, il y a un moment, dans toute bonne dictature, elle se fait choper, elle se fait torturer, même si elle bosse un peu pour tout le monde et pour l'Empire et pour des particuliers,
c'est
pour
ça,
des
proches, j'en sais rien. Au minimum, il y a l'Empire, il y a
qui un débarque, officier impérial tout,
qui déboule. Voilà. Non, sans des, qui toque à la porte et bonjour, c'est... Pas d'inquiétude, c'est la police française, madame. C'est français.
C'est français.
Qui fouille partout.
Exact.
Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est ce qui manque, en fait, dans cette série-là. Il y a... À vouloir être trop focalisé sur Omega et le côté un peu enfantin autour d'Omega, tu fais retomber le soufflet et... Bah, aucun moment j'ai des vrais moments de panique. Il y a peut-être que...
C'est vite fait, en fait. C'est vite retombé. Quand c'est un moment un peu stressant, c'est vrai que il dure pas longtemps, quoi. Non.
Et qu'est-ce que t'attends pour le dernier tiers de la saison?
J'attends rien, mon pauvre.
T'attends quelque chose ou rien du tout?
Non, j'attends rien. Non, sincèrement, non. Ça vient comme ça vient et puis c'est tout. Si, visuellement, à chaque fois, j'ai des beaux visuels, mais ça reste pas gravé dans ma tête. Il faudrait que je fasse des imprimés écran quand il y en a un beau, que je me dise, oh, tiens, ça c'est joli. Je vais me faire un fond d'écran de téléphone de temps en temps. Mais c'est tout, quoi. Là, dans l'épisode 11, il y en avait un, il était canon. Je me suis dit, ça c'est magnifique, quoi. Et ils le savent parce qu'ils posent... Ils te posent quelques secondes devant, quoi. Ils te font atterrir un vaisseau, tranquille. Ils savent sur quoi ils sont bons, les mecs. Donc, si jamais les scénaristes nous écoutent, désolé, les mecs, c'est pas vous qui avez réussi cette série, c'est l'équipe.
C'est les graphistes.
Voilà, c'est ça, tout le monde le sait, tout le monde peut le dire, quoi. Malgré tout l'amour qu'on a pour
Star Wars.
Pour Star Wars et pour les formats comme ça, non, c'est pas. Tout n'est pas à la hauteur, mais bon. Pas grave, ça occupe un peu. Oh, le gros dodo.
Ouais.
Oh là là.
Ah ouais, je bosse, je fais des shifts de 12 heures, ça pique.
Bah, je comprends bien, oui.
Bon, eh ben,
et
sur
toi,
ces bonnes...
tu attends quoi? Parce que tu m'as demandé ce que moi j'attendais, mais toi?
Eh ben, plus grand-chose, en fait. C'est bien ça, le problème. Effectivement, la série est superbe, mais je trouve que le fond est pas là. Il y a pas de fond, il y a peu de fond. On est dans le petit bain, comme dirait le légionnaire romain dans Astérix et les Indiens. On est dans le petit bain, ça décolle. Quand ça a l'air de décoller, ça retombe. Et honnêtement, je me cache pas, je regarde parce qu'il y a écrit Star Wars. Mais je prends plus de plaisir à remater American Dad ou les Simpsons qu'à regarder The Bad Batch. Alors... Ça changera peut-être quand il y aura l'intégralité de la série et qu'on aura finalement mis toutes les pièces petit à petit. Mais là, je préfère autant les épisodes de Loki, je les attends,
ouais,
autant ceux de Bad Batch. Ah oui, c'est vrai, on est vendredi.
C'est pas mal. Je dis, ouais, il y a un truc à regarder, quoi, pour ce week-end ou pour un truc pendant que tu manges.
Mais j'espère que j'espère que les autres contenus qu'on va avoir sur Star Wars seront de meilleure qualité, surtout les parties animées. Ils sont en train, a priori, là, depuis quelques semaines, de nous monter la sauce sur
Vision.
Star Wars. Non, sur Acolyte, la série Acolyte.
Oui.
Bah, moi, j'espère, parce que c'est le truc qui m'a mis le plus envie, donc j'espère que ça fera... J'espère que je serai content de ça, parce que là, The Bad Batch, pour le moment, ça me touche ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, et puis basta.
T'as failli dire une autre expression, non?
C'est ça.
Ah ouais, je l'ai senti.
Je me suis rattrapé.
Ouais, on va se la garder pour nous, celle-là.
C'est ça.
le contenu, en effet, on n'est jamais surpris, quoi. Il y a aucun moment où on se dit, ah waouh! Parfois, je vois passer des mots comme ça sur le Discord. Oh là là, quel épisode ! Génial ! Tu te dis, ah ouais, super, j'ai hâte. Bon, mais une fois que t'es devant, tu fais, ouais. À quel super. Moment tu t'es dit, oh, trop cool, quoi ! Trop
mais
génial,
tu sais, non, c'est... non. C'est... Je lis les comics Star Wars via le magazine BD de Panini. Bisous, un lien si tu passes par là. Et j'ai le même ressenti. Je continue à l'acheter parce qu'il y a écrit Star Wars dessus. Mais en une demi-heure, j'ai fini de lire les trucs et les trois quarts des comics m'indiffèrent totalement. La série principale Star Wars avec le trio principal, Luke, Han et Leia, c'est bidon et bateau. La série avec Vador, ce qui me dérange sur cette série-là, c'est que Vador se fait bolosser par tout le monde. C'est Vador est un être surpuissant normalement, c'est le visage du mal, c'est tout le monde se pisse dessus. Et depuis les quelques années que je lis cette saga-là, Vador c'est un gros chagrin.
Et il se fait victimiser par Tarkin.
Il se fait victimiser par l'Empereur. Mm. Il se fait victimiser par tout le monde. Là, le dernier épisode, l'Empereur, parce qu'il n'est pas content que Vador n'ait pas zigouillé l'une des anciennes servantes de Padmé qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, lui casse ses prothèses de jambes, lui casse sa prothèse de bras, le refoue sur Mustafar. Et dit « Hey, il faut que tu apprennes à réapprennes la peur, la colère, le côté obscur. » Et Sokka, c'est lui envoie un assassin Sith. C'est Vador, merde. C'est pas une pleureuse, normalement. Je vois bien que ce soit le début, qu'il soit tout colère, qu'il soit pas content, Padmé, tout ça, tout ça. Mais c'est Vador, bordel. C'est pas Gérard qui vient de... C'est pas moi qui viens de perdre Sushi, quoi.
Il y avait une petite baisse de régime, faut pas lui en vouloir non plus.
Oui, non, mais il y a que ça dans son comics, en fait. C'est la baisse de régime, parce que... Mais rien. Pète des nuques, défonce des tronches, découpe des gamoriens à la hache. mais arrête de pleurer.
Ouais. Bah, les contenus qui te donnent vraiment des émotions autres que juste occuper ton temps, tourner des pages ou regarder bêtement un écran. Enfin, ce genre de contenu surprenant, c'est rare quand même. On est à la fois surpris, ébloui,
cogite.
Loki, moi, ça me le fait un petit peu, ouais, quand même. C'est pas non plus un truc de dingue, mais un
autant
peu quand même.
Autant on va faire une petite...
une digression, là,
digression.
D'univers, là.
J'ai aimé la série Vendavision.
Oui, moi aussi.
J'ai aussi aimé la série Falcon et Winter Soldier.
Oui, un petit peu moins.
Loki les met à l'amende tous les deux.
Ouais, parce
et
que
quasiment
c'est
dès le premier épisode.
C'est un ovni, ouais.
Voilà, et moi, c'est ça que je... Moi, c'est honnêtement, c'est... C'est pas que ça que je demande, mais c'est des trucs qui me fassent voyager, qui me fassent, qui m'en mettent plein les yeux, plein les oreilles. Mmh. À la fois par le son, l'image et par l'histoire, parce que ça raconte.
Ouais. C'est un peu creux au niveau des histoires. Ouais,
là, The Bad Batch, c'est ultra méga creux de mon point de vue. Hein. C'est que dans Nado, on a Loïc qui a l'air de porter ça au nu, qui trouve tout merveilleux, tout ça, tout ça.
J'ai hâte d'aller lire là tous les commentaires de la section spoiler du Discord de Star Wars en direct.
Moi perso, je regarde parce qu'il y a écrit Star Wars et puis parce que j'ai du temps libre.
Oui, c'est quand on a du temps libre.
Et je trouve ça dommage. Et franchement, ça me peine. Je trouve ça dommage parce que The Clone Wars, je regardais et j'adorais, même s'il y avait des défauts. Je regardais, j'adorais cette série. Et là,
j'ai l'impression que j'avais plus d'émotions aussi avec The Clone Wars et Rebels. C'est peut-être la diffusion qui fait ça.
Plus
d'attachement aux personnages, ou parce que c'est des personnages qui faisaient partie d'un univers qu'on avait déjà exploité sur plusieurs films, notamment avec les 6 films, je sais pas, peut-être, enfin avec le fil rouge finalement quand même d'Anakin qu'on avait sur de nombreux arcs aussi. Ouais, en tout cas, on n'ira pas dans les sommets avec The Bad Batch, quoi, c'est évident.
Bon, bah sur ces bonnes paroles...
Très motivantes pour regarder la suite de la série.
Ouais.
Ça fait plaisir de se retrouver.
Quand même le troisième récap.
Bah, bien sûr, absolument.
Qui servira aussi de récap final à la série.
Absolument.
Eh bien, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était Aude et Sylvain pour Star Wars en direct. C'est quoi déjà la phrase et que la force soit avec vous. Bisous, bisous, bisous.
Bye bye à tous. Salut.